enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous lisons au chapitre 15, les versets 1 à 6, et ce sera la méditation d'aujourd'hui. Le livre des commencements, le livre de la Genèse, chapitre 15, les versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel ». Mais il dit en substance cela parce qu'il rajoute derrière « Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole d'Éternel lui fut adressée ainsi « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais ce sera celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Abraham, regarde les étoiles du ciel et compte-les, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Et nous retiendrons essentiellement le verset 6 qui arrive là. « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Vraiment continuer sur cette idée, comment devenir un ami de Dieu. Mon thème sera « En route avec Abraham ». C'est déjà le quatrième message. Et le sous-thème sera « Faire confiance à Dieu, c'est primordial ». Alors pourquoi Abraham, comment ça se fait-il, comment il a fait confiance? Eh bien, il a fait confiance au Dieu de l'impossible qui est loyal dans ses promesses. Voyez-vous, le verset 6 là, est repris dans Romains chapitre 4 par l'apôtre Paul sous son grand thème de la justification par la foi. Comment être juste devant Dieu? Eh bien, Abraham nous le montre là. Il ne connaissait pas la loi de Moïse, jamais n'aurait pu obéir aux commandements puisqu'il ne les connaissait pas, il n'avait même pas été édité. Mais Abraham a simplement fait confiance à la parole de Dieu et Dieu le lui a compté comme justice. Était-il parfait? Non. Mais Abraham a été déclaré juste. Il a été justifié à cause de cela. Mais avant de voir ce verset-là, verset 6, le texte commence ainsi, hein, étrangement, il dit, Dieu dit, Abraham, ne crains pas. Pourquoi avais-tu peur, Abraham? Faites de deux choses. La première, c'est que les armées ennemies qui venaient de vaincre étaient quand même beaucoup plus grandes que sa petite troupe de 300 bonhommes. Mais deuxièmement aussi, Abraham prenait de l'âge. Et je pense personnellement que ce qu'il craignait, c'est ce qu'il dit d'ailleurs en substance, c'est qu'il décède sans avoir d'héritier. Et Abraham cherche là tranquillement à dire, écoute Seigneur, t'es bien sympa de me dire que t'es mon bouclier, t'es bien sympa de me dire que ma récompense sera très grande, mais qu'est-ce que tu me donneras? Des chameaux, des brebis, des boucs, des serviteurs, des tentes. Mais Seigneur, je pars sans enfant. Abraham essaye d'expliquer son problème à Dieu et il appelle ça la prière. Et généralement, nous, on est pareil, n'est-ce pas? On essaye d'expliquer notre problème à Dieu et on appelle ça prière. Mais voyez-vous, mais Dieu va être beaucoup plus sage et plein de tact. Et avant de pouvoir croire pleinement, avant d'avoir ce verset où il est marqué « Abraham crut et Dieu le lui imputa à justice », Dieu fait cinq choses. La première, il l'écoute sans le juger. Même quand des fois nous tentons d'expliquer à Dieu nos problèmes et qu'on appelle sa prière, j'aimerais vous dire que Dieu nous écoute sans nous juger. Pas une bonne nouvelle ça. Deuxièmement, il lui fait savoir qu'il comprend son problème. Une fois qu'Abraham a expliqué longuement, Dieu lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Autrement dit, Abraham, je te connais et je connais ton problème et je le comprends et je vais réagir. Troisièmement, il corrige sa vision des choses. N'est-ce pas étrange de voir Dieu lui dire, maintenant Abraham, sors un peu dehors de ta tente et compte les étoiles du ciel. Un étrange texte, ici, à cet endroit-là. Mais voyez-vous, notre foi est souvent influencée par ce que nous voyons. Abraham, lui, il ne voyait plus qu'une seule chose. Vous savez quoi ? Un berceau vide. Dieu lui dit, viens avec moi, sors avec moi. Va voir compter les étoiles du ciel, si tu le peux, c'est marqué. Mais c'est impossible de les compter, n'est-ce pas ? Dieu est en train de corriger la vision des choses d'Abraham et lui dit, Abraham, autant tu ne peux pas compter, autant c'est impossible pour toi de compter les étoiles du ciel, autant maintenant, il est impossible pour toi d'avoir un enfant à ton âge, mais si tu comptes sur moi, le Dieu de l'impossible, alors tout peut devenir possible. Amen. Dieu lui corrige sa vue. Et finalement, il lui fait la promesse, telle sera ta descendance. Elle sera impossible à compter. Mais pour que cela arrive, il faut que le Dieu de l'impossible se mêle de son histoire personnelle. Amen. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Dieu va d'abord se révéler à lui et lui montrer qui il est. Parce que voyez-vous, croire, c'est faire confiance à Dieu. En substance, croire, c'est mettre tout son poids sur Dieu. Mais avant de mettre son poids sur quelque chose, sur une chaise par exemple, faut-il être sûr que la chaise soit assez solide pour qu'elle me tienne en dessous de mes fesses, hein ? Sinon, évidemment, je peux me mettre dessus. Le problème de beaucoup de croyants, ils veulent bien croire en Dieu, mais ils ne sont pas sûrs qu'en face, ce sur quoi ils vont s'appuyer dessus est assez solide. Mais Dieu est solide et Dieu est fidèle. Et Abraham sent quand Dieu lui parle de ce coup-ci, il sent vraiment que là, Dieu est loyal et fidèle. D'ailleurs, le mot fidèle veut dire être solide au point qu'on puisse s'appuyer dessus. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un sur qui on peut se reposer. Et Dieu est ce quelqu'un. Le psaume 46, verset 1 dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans le malheur. » Dieu est un ferme appui. Apocalypse 19, verset 11, nous décrit la nature même du Fils de Dieu, décrit sous les traits du cavalier, sur le cheval blanc d'Apocalypse. Apocalypse 19, verset 11, il est dit, « Et celui qui le montait, ce cavalier, s'appelait le fidèle et le véritable. » Bien-aimés, lorsque nous prions Dieu, nous avons affaire à quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer et qui ne s'écroule pas au moindre courant d'air. Et lorsque vous faites confiance à Dieu, vous l'honorez. Et lui vous déclare juste. Conséquence de la foi, Abraham est justifié. Il n'est pas perfectionné en un coup, il est déclaré juste. Si vous lisez le reste de l'histoire d'Abraham, il n'est toujours pas encore parfait, n'est-ce pas ? Mais Abraham est justifié et déclaré juste. Et Romains 5, verset 1 dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Comment avoir la paix avec Dieu ? En faisant 40 km sur les genoux d'ici au prochain pèlerinage ? Non. Comment avoir la paix avec Dieu en faisant des veilles et des pénitences? Non! À partir de Genèse 15 jusqu'à Apocalypse, on se rend compte que pour être juste devant Dieu, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de lui faire confiance. Et de lui faire confiance à lui et à lui seul. Et si vous lisez le reste du passage de Genèse 15, on parle d'un étrange sacrifice que Dieu lui demande. Une génisse de 3 ans coupée en deux, un bélier, une chèvre de 3 ans coupée en deux et des tourterelles. Et Dieu le visite la nuit. Et il passe la nuit sous forme de flamme de feu entre les animaux et il coupe l'alliance, il la consomme. Cette alliance que Dieu fait avec Abraham. Genèse 15, verset 17 à la fin du passage. Nous avons célébré il y a un instant la nouvelle alliance. Celle qui est d'autant plus meilleure parce qu'elle a été livrée par un sacrifice innocent, le Fils de Dieu. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez déjà fait alliance avec Dieu ? Si vous l'avez déjà fait, j'aimerais vous dire, rappelez-vous, dans toutes vos misères et vos difficultés, vous avez un allié sûr et solide, le Fils de Dieu. Amen. Donc ne craignez point face aux difficultés et aux tempêtes, parce que vous avez à vos côtés un allié qui se tient de vos côtés et qui vous a déclaré juste Et si vous avez péché, eh bien repentez-vous et revenez à lui. Vous savez pourquoi? Parce que lui demeure fidèle, même quand nous, nous sommes des infidèles. Il est fidèle. Autrement dit, il est solide. On peut s'appuyer sur lui en tout temps et en tout lieu et à toute heure. Amen. Abraham a cru à la loyauté de Dieu. Il a cru à ce Dieu qui est fidèle, sur qui on peut s'appuyer. Et finalement, il a eu la paix avec Dieu. Il est devenu d'un monsieur tout le monde, d'un inconnu, il est devenu un enfant de Dieu, comme vous et moi, si tant est que vous ayez déjà fait la paix avec Dieu. Abraham a été déclaré un ami de Dieu, deuxièmement, parce qu'il a aussi fait confiance à Dieu en dépit des délais et des contradictions apparentes, entre guillemets, de Dieu. Voyez-vous, entre Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 16, verset 16, on nous dit qu'il s'est passé à peu près 11 ans. Puisque dans Genèse 12, verset 3, Abraham a 75 ans. Et dans Genèse 16, verset 16, il en a 86. Ça fait 11 ans de différence. Dieu avait donné, dans Genèse 12 déjà, la promesse qu'il aurait une descendance. Et au bout de 11 ans, toujours rien, si ce n'est 11 ans de plus. Et la pauvre Sarah, qui peut-être, espérait peut-être, qu'éventuellement la nature allait faire une espèce de, une exception pour qu'elle puisse quand même avoir un enfant, plus les années s'accumulaient, moins elle avait de chance d'en avoir réellement. Et puis entre Genèse 16, verset 16, et le verset suivant, chapitre 17, verset 1, il est dit qu'Abraham, que Dieu revint parler à Abraham quand il avait 99 ans. Ça fait un bail, ça. Ça fait presque un quart de siècle. 24 ans se sont passés entre ces cinq chapitres. 24 ans et toujours pas de descendant. Il y avait de quoi se faire des cheveux gris. Hein. Et la Sarah aussi, elle était un peu fripée peut-être. Hein. Il n'y avait pas les crèmes, machin, là, anti-rides et tout. Quoique, elle avait apparemment du charme. Hein. Parce que Abimelech, dans Genèse 21, donc bien plus tard, va la voler à Abraham pour en faire sa femme. Donc elle avait encore du charme en 90 ans. Hein. C'est pas mal, hein, mesdames. Mais ce qui est remarquable, voyez-vous, c'est qu'Abraham a continué à faire confiance malgré les moments de écart de conduite, hein, les moments difficiles, les moments de fléchissement. Et vous le savez comme moi, une amitié ne se construit pas en deux jours. Moi, les gens qui m'appellent mon ami Claude au bout de deux rencontres, je me dis, bof, de quoi parle-t-il ou tel? On n'est pas amis en deux jours. Les amitiés passent différentes phases. La lune de miel, n'est-ce pas? Mais aussi les tempêtes, les conflits, les réconciliations. Et finalement, on teste l'autre, on s'apprivoise l'un l'autre, et finalement, on se rencontre, il rencontre, il ou elle, il est fidèle. Elle est fidèle. Il est loyal. Ouais, elle a des défauts, mais elle est loyale. Il est loyal. Abraham a appris à faire confiance à Dieu en dépit des délais. Moi, honnêtement, un ami qui me dit, Claude, je te fais un super gros chèque en quelques temps, je dis, ah, super, oui, hein? Amen, amen toujours. Hein? Au bout de 24 ans, toujours rien. Mais je voudrais peut-être qu'on écoute un instant ce que je vais dire là. C'est un cheminement habituel de la part de Dieu de faire des promesses et de les remplir. Entre le moment où il fait la promesse et le moment où il l'exécute, parfois il se passe un sacré délai. C'est la façon de faire de Dieu. On se rappelle Joseph, fils de Jacob, il reçoit la promesse qu'un jour, ses frères vont se mettre à genoux devant lui et s'incliner devant lui. Mais entre le moment où il a la promesse à l'âge de 17 ans et le moment où ça se remplit, c'est 20 ans qui se passent. 20 ans se sont passés. Mais Dieu a tenu promesse. Ce qu'il fallait en face, c'est un cœur rempli de suffisamment de foi pour dire « Je crois à la promesse de Dieu en dépit des délais et des retards apparents. » Parce que Dieu ne sera jamais en retard. Amen. Abraham est devenu l'ami de Dieu parce qu'il a cru Dieu aussi en dépit des retards apparents, des délais apparents que Dieu avait apparemment mis en place, mais aussi en dépit des contradictions apparentes. Dans Genèse 22, enfin le fils est arrivé. Isaac naît. Isaac veut dire le rire. Il a ri Abraham. Enfin il est là ce fils attendu, le descendant. La promesse s'est enfin accomplie. Le gamin prend 13 ans. Et un matin, Dieu se présente et dit, « Donne-moi ton fils. » J'en ai deux, Seigneur. Non, 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 celui que tu aimes. J'aime les deux. Non, 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 Isaac. Parfois, Dieu travaille comme ça et il le fait souvent avec nous. Nous avons tous nos Isaacs, les choses pour lesquelles nous avons prié tellement longtemps, et enfin elles arrivent. Ces choses-là ont été l'objet de nos désirs, le sujet de nos prières pendant tellement d'années, tellement de temps, et voilà qu'ils arrivent. On est heureux. Alléluia. Et puis un matin, Dieu te dit, donne-moi ton Isaac. Comment auriez-vous réagi? Comment aurais-je réagi? En plus, c'est un fils, c'est un enfant, c'est pas juste un copain, c'est le fils. C'est tellement d'attente, 25 ans d'attente. 13 ans plus tard, donc 25 et 13, ça fait 38 ans. Mais Dieu, je deviens fou avec toi. Tu me donnes et puis tu reprends. Oui, il donne et il reprend comme il veut. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut ton cœur pour lui. Il veut savoir si tu l'aimes plus que ta bénédiction. Oh, on aime tous le Dieu de la bénédiction. Mais l'aimons-nous plus que la bénédiction de Dieu? Et vous savez, un ami, on le veut pour soi. Ma femme, elle est pour moi et personne d'autre. Je ne partage pas. Pour moi et moi seul. Si elle m'aime pour mes richesses, elle est trompée là. Je veux qu'elle m'aime moi, pour moi. N'est-ce pas? Ce que Dieu cherche, c'est nos cœurs. Ce que Dieu cherchait, c'était le cœur d'Abraham. Abraham, es-tu mon ami? M'aimes-tu plus que tout ça? Question de Jésus à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Mettez votre prénom, Jocelyne, Gérard, Ginette, tout ce que vous voulez. M'aimes-tu plus que mes réponses à tes prières? Ça peut devenir très, très concret. Ça peut être un fils, une fille, une situation de travail, un mari, une femme. Ça peut être, Jésus l'a dit, celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, sa richesse, ses terres, et même sa propre vie plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est marqué noir sur blanc. Et Dieu travaille. Et Abraham a cru, il est devenu l'ami de Dieu parce qu'il a cru en Dieu, en dépit des attentes longues, des apparents retards de Dieu, apparentes contradictions de Dieu, mais il a cru en Dieu. Et Dieu lui a donné ce qu'il voulait. D'ailleurs, à un moment donné, il va donner le fils. Et dans Hébreux 11, il est dit qu'Abraham crut tellement Dieu qu'il était prêt à le sacrifier, croyant que ce que Dieu dit, il le fait et qu'il le retrouverait au travers d'une certaine forme de résurrection. Mais des fois dans nos vies, quand ce moment vient, faut-il avoir la force et le courage de faire ça? Je lâche mon fils, je lâche ma fille, lâche mon mari, lâche ma femme, mon travail, que sais-je, ma situation, mon honneur, mon ambition. Seigneur, je te le lâche. Parce que je t'aime plus que tout ça. Enfin, troisième point, Abraham crut et cela lui fait imputer la justice. Abraham savait faire échec aux ennemis de la foi. La foi est une attitude du cœur, c'est faire confiance en Dieu. Hébreux 11, verset 1, dit ça ainsi, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Comme je suis sûr que si je mets mes deux doigts dans la prise électrique, je prends une châtaigne, j'ai jamais vu le courant, mais je vous garantis que mes deux doigts, je les mettrai jamais dedans. Pareil avec Dieu. Il est invisible, mais je peux être sûr qu'il est fidèle, qu'il entend ma prière et qu'il me poursuit de son amour. Amen. Mais voyez-vous, Abraham avait comme vous et moi des ennemis de la foi. En voilà quatre rapidement. Premier ennemi de la foi, c'est la peur. Il est parti du Ur Chaldée, il est arrivé en Canaan avec du retard, arrive la famine, Abraham a peur, il descend en Égypte. Et là, par peur de tuer, il va faire dire à tout le monde, notamment à sa femme, de dire à tout le monde, chérie, que t'es ma sœur et pas ma femme. Ça, c'est la trouille. Hein? Alors on se dit, oh Abraham, dis donc, mais j'aime bien ça. Parce que finalement, cet Abraham, il est un peu comme nous. Hein? Enfin, en tout cas comme moi. Je ne suis pas toujours un grand courageux. Par ailleurs, Abraham savait, à d'autres moments, montrer du courage et du zèle. Lot est en captivité, sans que Dieu lui dise quoi que ce soit, il fiche le camp avec son armée privée, 300 hommes, et il va libérer Lot et sa famille. Abraham avait du courage. Voyez-vous, notre foi est influençable, notamment par la peur au ventre. Jésus dit à Pierre, allez viens, sors de la barque, et Pierre sort. Et tant qu'il a les yeux fixés sur Jésus, Il marche sur l'eau, chose impossible. À un moment donné, une bourrasque de vent, une vague qui arrive, il voit la vague. La peur. Jésus dit dans Luc 21, verset 26, « Des hommes mourront dans les derniers temps. » Ils mourront de quoi ? Ils mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur la terre entière. La peur peut rendre malade. Mais la peur n'est pas de Dieu. Dieu est amour et dans l'amour parfait, il n'y a pas de peur. 1 Jean 4, verset 18. La peur est l'élément principal de l'enfer. Les démons croient que Dieu existe, mais ils tremblent de peur à cette idée-là. La peur est l'essence même de l'enfer. La paix est l'essence même du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu, si ce n'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, Romains 14, verset 17. Quand à un moment donné, un homme arrive, du nom de Jaïrus, chef de synagogue, dont la fille vient de mourir. Jaïrus dit, « Seigneur, maître, viens vite guérir ma fille. » La première des choses que Jésus fait, il lui dit deux phrases. Un, « Ne crains point. » Deux, il lui dit, « Crois seulement. » Autrement dit, c'est la foi en Dieu qui est l'antidote de la peur. La foi, la confiance en Dieu est l'antidote de la peur. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais jamais traverser des moments où la peur risque de monter en moi. David a vécu ça. Et au psaume 56, verset 4, voilà ce qu'il dit. Mais quand j'ai peur face à mes ennemis, mais quand j'ai peur, je place ma confiance en l'Éternel. Oui, des fois en tant que croyant, nous avons peur. Mais quand nous avons peur, nous avons un antivirus. On peut dire, Seigneur, oui j'ai peur, mais maintenant je te fais confiance. Maintenant je décide de te faire confiance. Je t'ai remis ma vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. Il m'est arrivé un pépin, un malheur, d'accord. Mais je t'aime quand même, Seigneur. Je te confie mon existence et ma vie. Et maintenant, je crois que tu vas aussi diriger la situation que je vis pour le mieux. Amen. Deuxième ennemi de la foi, les soucis. Quand on manque de 6 sous, on est en souci, n'est-ce pas? Les soucis. C'est pas cette saine préoccupation ou prévoyance de l'avenir. Je parle pas de ça, je parle de ces soucis qui vous rongent la nuit. Vous savez, ce qui vous ronge, qui vous empêche de dormir, qui vous donne un sang d'encre, qui vous font faire du mouron. Ces soucis qui sont comme, disait Jésus dans Matthieu 13, comme de la mauvaise herbe qui vient enlacer la bonne semence qui a grandi dans votre vie. La parole de Dieu grandit dans vous, mais les soucis viennent. Ah, qu'arrivera-t-il demain? Ah, j'ai entendu dire qu'en Alsace, il y a eu du chômage en progression incroyable au bout d'un an. Ah, et mes fils et mes filles auront-ils du boulot? Bien, c'est du souci. Et voilà, vous avez une entreprise. Et la nuit, oh là là, ce mois-ci, ça a mal marché. Pas assez de contrats qui sont rentrés, pas assez de vies qui ont été renvoyées, pas assez de factures payées. Comment vais-je faire? Et l'URSSAF du 15 juillet, etc., etc. Et on a des soucis. On a mal à la tête. Et vous savez quoi? Le souci vous ronge tellement que vous n'arrivez même plus à réfléchir clairement. Et Jésus vous dit, ne vous inquiétez de rien. Paul nous le répète. Philippiens 4, verset 8, que tous ceux qui connaissent ce verset par cœur répètent avec moi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications accompagnées d'actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Les soucis empêchent le développement spirituel et le développement de la foi. Se faire du souci, c'est se méfier de Dieu. Ah oui? Quand vous faites du souci, vous dites, eh bien Dieu, je ne suis pas trop sûr qu'il va arriver à m'aider, donc je vais quand même m'arranger moi-même. Hein? Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je me débrouille tout seul. Mais quand vous faites ça, très vite, vous arrivez au bout de vos limites. Se faire du souci, c'est dire en substance, je ne suis pas sûr que Dieu va arriver à me sortir de là. Je ne suis pas vraiment sûr qu'il soit cap, mais Dieu est cap. Il peut le faire. Il est tout puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Et à lui, rien n'est impossible. Un troisième ennemi de la foi, c'est l'impatience. Ah, l'impatience. La brave Sarah, femme d'Abraham, elle avait aussi entendu Abraham lui dire, Dieu m'a dit, tu sais qu'on aura encore un fils. Tu crois, Abraham? J'ai 80 et des poussières. Et toi, tu n'es plus très jeune non plus, hein, tu as 90 ans. Ouais, mais Dieu m'a dit qu'on allait avoir des enfants. Et alors, elle est pragmatique, terre à terre. Elle se dit, bon, dans mon pays, voilà ce qui se fait. Généralement, quand une femme n'a pas d'enfant, elle donne la servante à son mari, et comme ça fait un enfant adoptif. On rit de Sarah, mais mettez-vous à sa place. Elle avait 76 ans. Elle attendait depuis, allez, l'âge de 15-20 ans, d'avoir un enfant. Ça faisait plus d'un demi-siècle qu'elle attendait ce fils. Et il ne vient pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient impatiente et Abraham combine avec elle l'histoire avec Agar. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Bien-aimés, ce genre de situation peut aussi nous arriver à nous. Tout à coup, on peut devenir impatient et se dire, eh bien, je vais réaliser moi-même la promesse de Dieu. Je vais l'exécuter. Puisque Dieu a du mal à le faire, je vais l'aider un peu. Hein? Et on fait des bricolages spirituels. Et on se crée des Ismaël et des Absalom. Bien-aimés, je nous le répète à nous tous, on m'a y compris, Dieu est assez grand pour accomplir lui-même ses promesses. Là où je dois obéir, j'obéis. Mais là où, quand, après avoir obéi à tout ce que je peux obéir, Dieu ne fait pas encore, il y a une chose à faire, c'est attendre le temps de Dieu. Lorsque vous voulez marcher avec Dieu, il faut amener de la patience et du temps. Parce qu'il faut du temps pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Galates 4, 4, en parlant de l'arrivée du Fils de Dieu sur terre, il est dit... Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il a fallu que les temps s'accomplissent, que des choses se mettent en place, que le réseau de routes romaines mette enfin en place. Pour cela, il fallait que les Romains envahissent la Palestine, etc., etc., etc. Bien-aimé, Luc 8, 15, Jésus dit, « La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé. » Pour garder... la bonne semence, il faut du temps. Autrement dit, si vous voulez grandir dans le Seigneur et devenir fort en lui et produire du fruit, faites patient. Hébreux 10, 36 dit, vous avez besoin de persévérance et de patience pour accomplir la volonté de Dieu et ainsi obtenir ce qu'il promet. Quatrième et dernier point, un ennemi de la foi encore, tout aussi important, c'est le découragement. 24 ans d'attente ont eu raison, non seulement de Sarah, mais aussi d'Abraham. Et quand en Genèse 17, Dieu revient lui dire, Abraham, dorénavant tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude. Et puis Saraï, ce sera Sarah, parce que je la bénirai, elle aura encore un fils. Et là Abraham il s'est mis à rire. Vous pouvez lire avec moi, hein? Genèse 17, verset 17. Abraham tomba sur sa face quand Dieu lui avait dit, je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Il a explosé de rire. Un homme de 100 ans peut-il avoir un fils? Une femme de 90 ans peut-elle avoir un enfant? Je ne pense pas que c'était un rire moqueur, mais je pense que c'était le rire de la résignation. Je pensais que Dieu me donnerait un fils, mais bon, finalement non. Ce sera Ismaël, d'accord. Et quand Dieu lui dit, maintenant je te donne un fils. Seigneur, à qui penses-tu là? Non, attends Seigneur, soyons sérieux. J'ai 100 ans, ma femme 90. C'est fini pour nous, c'est terminé. Abraham était découragé. Mais il est dit qu'Abraham puisa courage, il ne regarda pas son corps usé et celui de sa femme, et il conçut avec elle un fils du nom d'Isaac. Amen. Pour ceux qui sont découragés, je veux te dire, évite de rencontrer des gens qui te découragent. C'est incroyable les gens qui savent décourager les autres. 12 espions rentrent du pays, 10 disent, ah le pays est magnifique, il est super, des grappes comme ça, des pommes comme ça, c'est fantastique. Mais, il y a des grands ennemis, on était à leurs yeux comme des sauterelles, eux étaient comme ça. Des murailles énormes, impossible, on ne va jamais y arriver, retournons en Égypte. Il n'y en a que deux qui ont osé dire, c'est un bon pays, c'est un super pays. Oui, il y a des ennemis, oui, il y a des difficultés et des défis, mais avec Dieu, on va les avoir. Évite les gens qui te découragent, les gens négatifs. Deuxièmement, ne compte pas sur ta force, mais sur celle de Dieu. Troisièmement, compte avec les faiblesses des autres. L'être humain est parfois fragile. Quatrièmement, vois toujours le côté positif. Josué, Caleb, on se voit le côté positif. Oui, il y a des ennemis, mais il y a des pommes comme ça, des grappes comme ça, et un Dieu comme ça. Remplis ta pensée des promesses de Dieu et tu verras. Peu de découragement, il fuira. Amen. Remplis ta pensée de la parole de Dieu. Remplis-la abondamment. Je conclue rapidement. Faire confiance à Dieu ou en Dieu, c'est primordial. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Et on peut lui faire confiance à Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est loyal. On peut s'appuyer sur lui. Il est solide, il ne s'écroule pas. Il est loyal en dépit des délais et des retardements. Dieu ne sera jamais en retard. Il est toujours on time. Amen. Et troisièmement, j'aimerais te dire, apprends à mettre en échec les maths, les ennemis de la foi que sont la peur, les soucis, l'impatience et le découragement. Et rappelle-toi, quand tu as peur, fais confiance à Dieu. Parce que Dieu, à lui, rien, absolument rien, ne lui est impossible. Et ce qu'il décide d'accomplir, il le fera en dépit de tout. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.